m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais
oui, avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jeanne, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonsoir, vous avez choisi d'écouter Restons Courtois et ma foi, vous avez bien raison. Je suis Jean-François Coulon-Désart et je suis assis exceptionnellement dans le fauteuil de Marc Baudrier. Marc, que vous retrouverez aux commandes de cette émission dès la semaine prochaine. Alors, autour de la table, nos mousquetaires sont là, ils sont bien là. Maître Damien Chalamel, que je salue bien bas. Bonsoir.
Bonsoir, chers auditeurs.
Gérard Gachet, journaliste, ancien patron de rédaction, et toujours très informé des us et coutumes du petit monde politique. Bonsoir, Gérard.
Bonsoir, Jean-François. Bonsoir, chers auditeurs.
Et Franck Herriot, lui aussi est journaliste et écrivain. Bonsoir, Franck.
Bonsoir.
Alors, au sommaire ce soir, ce joli mois de mai, à la météo incertaine, ce mois de mai avec des ponts, que dis-je, des viaducs, qui en héritent beaucoup, le mois où l'on travaille le moins. C'est vrai qu'avec 3500 milliards de dettes, on peut tout se permettre. On partira pour l'Afrique aussi. Saga Africa, courir en Afrique pour appeler les 15 millions de binationaux à assumer leur double ancrage, 100% français et 100% de son pays d'origine. Présider la France sur Instagram, et oui, Emmanuel Macron est prêt à tout pour qu'on n'oublie pas. Et encore un an, croyez-moi, ça va être long. La mort peut attendre. Cette semaine, le Sénat a rejeté une nouvelle fois la loi sur l'aide à mourir, ou plutôt sur l'euthanasie. Pour Francis Pineur, sénateur de Paris, l'aide à mourir est un enjeu de civilisation qui doit faire l'objet d'une consultation des Français. Il est bien sûr notre invité. La Nouvelle-Calédonie, un dossier ô combien sensible et un dossier qui s'enlise. Le 2 avril dernier, douloureux camouflet pour Sébastien Lecornu, l'Assemblée nationale rejette la réforme de la Constitution visant à doter la Nouvelle-Calédonie d'un nouveau statut. Autrement dit, l'accord de Bougival, arraché par Manuel Valls, éphémère ministre des Outre-mer, tombe à l'eau. Retour à la case départ, et en attendant, les élections provinciales du 28 juin prochain, beaucoup décident de quitter l'île définitivement. On fera le point sur ce dossier brûlant avec notre invité, Georges Naturel, c'est le sénateur de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, vous en avez pris l'habitude, on terminera cette émission avec des coups de cœur culturels ou des coups de griffe, pourquoi pas, des livres, des films, bref, tutti quanti. Alors, si vous avez des questions, des interrogations, il y a un standard, vous appelez RC, au 01 46 51 00 85. Allez messieurs, on commence avec le traditionnel tour de table. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans l'actualité cette semaine? On commence avec, allez, Gérard Gachet.
Bien, ce qui m'a interpellé cette semaine, ça avait déjà interpellé il y a une quinzaine de jours, c'est la deuxième rêve partie à laquelle nous assistons en quelques jours, effectivement, après celle organisée début mai près de Bourges sur un terrain militaire où il y avait en plus un obus à désamorcer. Eh bien, une autre rêve partie tente d'avoir lieu en ce moment même en Lozère, dans des champs, là, cette fois-ci, appartenant à des paysans.
Oui, mais il fait très mauvais.
Il fait très mauvais, ce qui fait qu'effectivement, ça rend la tâche plus difficile, parce qu'ils étaient quand même en train d'y arriver, malgré la mobilisation des gendarmes d'un côté et des paysans d'autre part, qui avaient commencé à barrer l'accès à un certain nombre de champs. Il faut quand même rappeler, ces rêves partis, c'est quand même l'occupation illégale et le saccage de terrains, privés ou publics. C'est la mise en danger de la vie des participants. En Lozère, par exemple, ce week-end, il y en a 7 qui ont déjà été secourus, dont 2 qui étaient en état d'hypothermie avancée. Et puis, c'est la prise de nombreuses substances toxiques, en dehors de l'alcool, mais de drogues diverses et variées. Et pourtant, la gauche dans son entier, des insoumis au Parti Socialiste, défend les rêves partis, disent qu'il ne faut pas les sanctionner, il faut que les jeunes s'amusent. Et en revanche, ils s'élèvent, la même gauche s'élève, contre les banquets traditionnels auxquels on assiste, les banquets du canon français, qu'elle veut, elle, la interdire sous prétexte qu'on y mange du cochon et qu'on y chante des succès de Sardou, de Delpech. Bon, tous les goûts musicaux sont dans la nature, mais c'est très drôle de voir qu'on veut autoriser des choses parfaitement illégales et parfaitement dangereuses, et en même temps interdire des fêtes qui sont uniquement traditionnelles, quitte à inventer d'ailleurs des fake news pour les discréditer, soi-disant qu'on y aurait vu des saluts nazis qui, lorsqu'on regarde les images, n'ont strictement rien à voir avec ce type de salut.
Oui, il y a eu un très bon papier sur le canon français dans le Figaro qui remontait justement à l'origine de ces fameux, entre guillemets, saluts nazis qu'on aurait vus. Rien de tout ça. Il y a une enquête qui a été faite, c'est formidable. Mais ça vous étonne, Franck Herriot, que la gauche permette ça et puis que la...
Non, moi, ce que je ne supporte pas,
c'est que... logique, Gérard.
C'est que la gauche ne soit pas émue par le fait qu'on puisse droguer une chèvre dans un champ comme ça. Oui. Ça me paraît quelque... Et pourtant, il y a des écologistes à gauche. Mais non, ça les a pas émus. Je suis très surpris.
Les écologistes, c'est des pastèques. Les rouges à l'intérieur et verts à l'extérieur. Monsieur maître, mon cher maître.
Non, mais le cochon a une dimension subversive, le cochon des canonniers, mais je trouve ça fameux. Et on
y sert aussi du poulet et de la viande.
Bien évidemment, pour tous les goûts. Et puis, pour tous ceux qui ont un peu de culture historique, ça fait penser aux banquets républicains, sous le Second Empire en particulier. Donc, moi, je vois ces banquets de canonniers comme le gage de futures victoires.
Et puis au ripaille aussi, culturelle, au ripaille gauloise dans un village insoumis.
Mais et puis franchement, quand je vois la tête de ces canonniers et de ces canonnières, ils sont franchement plus sympathiques.
Ils prennent un gros risque, les canonniers, tels qu'on les voit sur les photos, parce qu'un certain nombre d'entre eux portent des bérets.
Ah.
Et je suis très étonné que la gauche n'ait pas encore vu un lien direct avec la milice.
Ils aggravent leur cas.
Voilà. Et à mon avis, ça a leur pend au nez, ça, d'être comparé à des miliciens à cause du béret.
Il y a même quelques bacchantes, quelques moustaches, peut-être, quelques barbes.
Bon. Alors, maître Damien Chalamel, puisque vous avez la parole, vous la gardez. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu cette semaine?
Pour paraphraser Éric Maria Remarque, à l'ouest du nouveau. À l'ouest du nouveau, mais sans aller jusqu'à traverser l'Atlantique. Totalement. Je traverserai juste la Manche pour vous parler de ces élections régionales, locales au Royaume-Uni qui ont vu le triomphe de Nigel Farage et de son parti qui s'appelle Reform UK, réformer le Royaume-Uni, qui est issu d'une scission du parti qu'il avait créé qui s'appelait United Kingdom Independent Party, donc le parti de l'indépendance du Royaume-Uni, qui était UKIP, qui était destiné à quitter l'Union européenne et puis qui était finalement, enfin passé le succès il y a 10 ans de ce référendum, qui n'avait pas réussi à se transformer. Et là, Nigel Farage a réussi à donner un contenant à son souverainisme, parce que le souverainisme dans l'absolu, si c'est pour faire un royaume islamique du Royaume-Uni, ça n'a aucun intérêt, et une république islamique de France, ça n'a aucun intérêt non plus. Et bien là, Nigel Farage, cette fois-ci, a vraiment décidé de donner un tournant qu'on pourrait qualifier de populiste de droite à son parti, et au point d'émietter totalement le paysage politique, en particulier en assurant à son parti des victoires dans ce qu'on pourrait appeler le Royaume-Uni périphérique, c'est-à-dire notamment le Pays de Galles et le nord de l'Angleterre, hein, qui étaient des terres historiquement travaillistes. Et donc à court ou moyen terme, bien évidemment, c'est fort de ces succès, on verra un gouvernement qui devrait être issu, lorsqu'il y aura des élections au niveau législatif, de cette nouvelle majorité qui ne sera ni travailliste, ni conservateur, et qui sera issu de cette troisième force populiste de droite, qui est idéologiquement, quoi qu'on puisse penser par ailleurs de Nigel Farage, mais qu'à titre personnel j'apprécie beaucoup.
Vous êtes un grand fan visiblement.
Oui, mais parce que moi c'est mon petit côté souverainiste et j'aime bien l'anglais, donc j'écoutais ces discours enflammés, brillantissimes à Strasbourg, au Parlement européen, et je garde mon admiration, sinon mon affection. Voilà. Et c'est vraiment le parti où je dirais, c'est un populisme de droite. Enfin, il faut quand même regarder, si vous voulez, entre l'accès possible au pouvoir du Rassemblement national en France, ce qui se passe en Italie avec Mme Meloni, les succès de l'AFD en Allemagne, et les succès, alors populisme, mais cette fois-ci pas forcément de droite, hein, mais y compris de gauche, mais enfin de gauche cohérente, au Danemark.
C'est un oxymore, ça, non ?
La gauche cohérente, hein, non. Moi, vous savez, je suis très ouvert d'esprit, donc...
Bon, c'est aussi votre avis, mon cher Gérard. Nigel Farage...
C'est tout à fait intéressant, mais... Je ferais quand même remarquer notre ami Damien, qui est quand même un historien, enfin qui connaît bien l'histoire, que historiquement parlant, le souverainisme britannique n'a pas toujours été le meilleur allié de la France. C'était même autrefois, avant que l'Allemagne ne prenne le relais, c'était même l'ennemi traditionnel
de
la France. Oui, c'était un souverainisme impérial, et notamment sur les mers, puisqu'on parlait tout à l'heure de la navigation. C'était quand même le grand adversaire de la France. Donc, je n'ai rien contre le souverainisme britannique, mais il faudra que ça se passe en bonne entente avec notre souverainisme à nous, si c'est possible.
Mais je pense qu'on peut s'entendre.
Si c'est possible, oui, si c'est possible. Oui. Oui. Enfin, bref. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai retenu avant de donner la parole à Franck moi, c'est l'ouverture du Festival de Cannes, en fait. Ça a été une aubaine pour les gens de cinéma, parce qu'ils ont remis ça, une pétition. On mobilise... contre Vincent Bolloré, bien sûr, un texte écrit en écriture inclusive, s'il vous plaît, qui dénonce l'emprise de Canal+ sur le cinéma français. Ça a été publié dans Libération. Alors, comme le dit Éric Neuf dans Le Figaro, la liste des signataires prête à sourire. Toujours les mêmes. Comédienne désœuvrée, acteur LFiste, technicien malheureux et réalisateur en quête d'avenir. Toujours les mêmes, rien de neuf donc sous le soleil de Cannes. Souvenez-vous de Maurice Druon, alors ministre de la Culture. Il reprochait aux artistes de tenir une sébille dans une main et un cocktail Molotov dans l'autre. Finalement, rien n'a changé. Sauf que personne n'a dit aux pétitionnaires qu'il n'est jamais recommandé de mordre la main qui vous nourrit. Donc voilà, c'est grotesque cette pétition, encore une fois. On a l'impression qu'il se mobilise après ce qui s'est passé dans l'édition. Après l'éviction de M. Nora, etc.
Mais c'est tout ce que vous avez retenu de l'ouverture du festival.
C'est tout ce que j'ai retenu de l'ouverture du festival.
Parce que moi, j'ai retenu, je pense que c'est là aussi un fait positif, c'est qu'il s'est ouvert sur ce film, L'Abandon, qui est le récit.
Oui, qui est remarquable, tout à fait.
Alors,
je n'ai
pas encore vu, mais semble-t-il extrêmement fidèle.
Sur Samuel Paty.
Des derniers jours et des dernières heures.
Les 11 derniers jours de Samuel Paty.
Voilà, de ce...
Absolument.
Ce pauvre professeur.
Bon, Franck, qu'est-ce que vous avez retenu cette semaine?
Contrairement à votre insistance, je ne parlerai pas de la liaison supposée d'Emmanuel Macron avec une séduisante actrice iranienne. Non,
j'ai rien dit, moi.
Je ne parlerai pas non plus de ce Roland de panique face à l'antavirus, même s'il serait intéressant d'analyser la psychose collective, les traces indélébiles laissées dans l'inconscient collectif, donc par le Covid. Non, ce que je retiens, c'est la visite de Donald Trump à Pékin, non pas pour me livrer à une analyse géopolitique, donc je n'ai pas les compétences, mais plus simplement pour mettre le doigt sur cette évidence que la politique internationale, que l'équilibre des forces dans le monde sont des sujets trop graves et trop complexes pour être confiés à un amateur. L'amateur étant évidemment Trump, en l'occurrence, qui en s'enlisant dans sa guerre contre l'Iran, empêtré, englué face à l'habileté et à la fourberie des mollahs et des gardiens de la Révolution, est arrivé à Pékin en position de faiblesse face à un Xi Jinping pas loin de dicter ses conditions sur l'avenir de Taïwan. Que les admirateurs de Donald Trump se rendent à cette évidence, l'inculture, l'improvisation et l'incapacité à écouter des conseillers souvent brillants, en tout cas vrais diplomates, vrais grands connaisseurs des questions internationales, a conduit à affaiblir la première puissance mondiale et du même coup, ses alliés, dont nous faisons partie, qu'on le veuille ou non. Les Américains peuvent être donc légitimement inquiets, l'Europe peut l'être aussi, et nous aussi, Français, bien sûr.
Eh bien, lorsque vous avez traité Monsieur Trump d'amateur, j'ai vu les sourcils de Damien se froncer. Damien n'aime pas qu'on traite Trump d'amateur.
Non, mais vous pouvez. Non, mais il y a ce fiasco, ça laisse extrêmement songeur. Hein.
Damien, qui était. Vous étiez opposé, enfin opposé, vous ne le suiviez pas en tout cas sur son.
Ah, mais bien évidemment, moi je suis un contempteur farouche, non seulement de cette intervention américaine, mais également des agissements de l'État d'Israël dans cette région-là. Ce qui me distingue de, je crois, la plupart des gens qui sont sur ce plateau. Donc vous voyez, mais je garde quand même beaucoup d'admiration pour Trump, effectivement, mais ça laisse songeur quand même sur sur la capacité des hommes à connaître, savoir, mesurer l'histoire qu'ils font.
Et puis voilà. L'incapacité de certains à jouer aux échecs aussi.
Oui, mais voilà, mais c'est... Les hommes font une histoire, mais ils ne connaissent pas cette histoire.
Allez, on avance. Je vous propose de changer de continent. Partons pour l'Afrique, Saga Africa. On écoute d'abord ce qu'a dit Emmanuel Macron lors de son voyage, de son récent voyage dans trois pays d'Afrique anglophone.
C'est qu'il y a des millions et des millions de jeunes en France qui sont des diasporas comme vous. Et pendant trop d'années, on leur a dit « excuse-toi d'être d'une diaspora, excuse-toi d'être ceci ou cela, ou fais oublier un peu ». Non, vous êtes 100% française, 100% algérienne. Accumulez-les, redoublez-les, on en a besoin. Parce que c'est un accélérateur pour nous, Français, d'avoir des jeunes comme vous, qui sont françaises et algériennes, françaises et centrafricaines, et qui ont envie de dévorer le monde, de conquérir plein de choses, mais qui sont avec nous. C'est très important pour moi. Et donc, soyez fiers de cette diaspora, soyez totalement française et totalement africaine.
Alors, 100% français, 100% de son pays d'origine, Gérard Gachet, je vous ai vu faire les gros yeux.
Bah déjà, pour quelqu'un qui était soi-disant un expert en matière économique, donc en matière de chiffres, quelqu'un qui est 100% africain, 100% français, ça donne une personnalité à 200%, ce qui est quand même assez rare et difficile à trouver dans le monde. Pour le reste, c'est un peu affligeant parce que il faut quand même rappeler que sous la présidence d'Emmanuel Macron, ça avait déjà commencé auparavant avec François Hollande, mais la France a dû quitter la plupart des pays africains où elle exerçait une certaine influence. Sénégal, Guinée, Mali, Mauritanie, Côte d'Ivoire et bien d'autres. À tel point que ce sommet France-Afrique, où parlait le président Macron, se tenait où ? À Nairobi, au Kenya, ancienne colonie britannique, et s'appelait d'ailleurs, comme par hasard, Africa Forward. Donc, comme sommet franco-africain, on peut trouver mieux.
Afrique en avant.
Oui, Afrique en avant, voilà.
Chose France.
Donc 100% africain, 100% français, 100% anglaise. 300%.
Oui, ça fait du 300%, effectivement. Franck a raison, on bat des records. Et bon, c'est vrai qu'Emmanuel Macron avait déclaré à son époque que la culture française, ça n'existe pas. En tout cas, en Afrique, et en grande partie grâce à lui, la culture française, ça n'existe plus.
On s'est fait laminer en Afrique, là où nous étions historiquement. C'est vrai qu'on s'est fait sortir de partout, du Mali, du Tchad, absolument, absolument de partout.
Ce genre d'événement fait toujours penser à Léopold César Senghor. 100% africain, mais de culture française. Enfin, c'était un normalien, un ami de Georges Pompidou. C'était un
très bon poète.
Extrêmement brillant et un très grand poète. Mais ça ne l'empêchait pas d'avoir cette culture française et d'être aussi 100% africain. Sans être 100%, il n'était pas obligé d'être 100% français.
D'ailleurs, Léopold Sédar Senghor était l'inventeur, je crois, d'un terme aujourd'hui totalement décrié. C'est lui, la négritude, dans laquelle il vantait justement sa culture africaine. Dans un cadre, fût-ce dans un cadre à une époque française, puisqu'il a été avant, je crois même qu'il avait été député d'ailleurs.
Oui, absolument,
français.
Oui, absolument.
Damien Chalamet. Oui, alors moi, écoutez, ça me laisse extrêmement songeur. Déjà, un des marqueurs politiques de ces 10 ans de macronisme, c'était son européisme forcené. Et je vois qu'en fait, il trouve un malin plaisir à imaginer la France quitter l'Europe pour définitivement rejoindre l'Africain. Parce qu'une France sans Européens, Non, c'est éventuellement un appendice africain, mais ça n'est plus la France. Sinon, moi, je me dis que ce Emmanuel Macron est vraiment, je dirais, un enfant de vieux. C'est-à-dire qu'il a, c'est le vieux jeune homme qui n'a pas grandi et qui annonce finalement tous les poncifs des années 80. Alors là, c'est un peu le multiculturalisme, l'antiracisme. Alors il y a la fameuse phrase qui a été l'épicentre du français et sur les bords du fleuve Congo. Et non plus sur les bords de la Seine.
Oui,
ce à quoi,
aussi,
bien évidemment, l'excellent Éric Zemmour a répondu que si l'épicentre des Français était sur les bords de la Seine, l'épicentre de l'Afrique est sur les bords de la Seine. Bon. Et puis alors, parmi les poncifs, alors, il y a aussi une imposture historique. Alors, on avait, il y a 10 ans de ça, c'était la colonisation française, crime contre l'humanité, la repentance à sens unique, et ainsi de suite. Et puis, la déconciliation convenue de la France-Afrique. Alors là, effectivement, c'est le comble du grotesque parce qu'il dénonce cette France-Afrique hypothétique, hein, dans un pays qui n'a jamais fait partie de cette supposée France-Afrique. Donc on ressort de là, on est à la fois perplexe sur le personnage et en même temps on est atterré de la nullité, de la pauvreté du personnage. Et par ailleurs, je mets ça dans une manière plus large, c'est que ce que j'observe, c'est qu'effectivement on ne l'entend plus sur la scène nationale. Donc, il cherche à éviter le goudron et les plumes. Et puis, il y a cette forme d'errance à l'international. Alors, vous souvenez, en 2018, c'était le centenaire de l'armistice. C'était son itinérance mémorielle. Mais c'est un peu l'errance mémorielle. On le voyait s'agiter un peu partout. Bon, mais maintenant, on a l'impression qu'il fait un peu pareil, mais...
Et puis, il a annoncé 24 milliards. Alors, 24 oui, milliards... Oh, alors,
c'est
on,
tout
on a, c'est, oui, c'est tout. On n'a plus un rond, on est fauché, mais on trouve 24 milliards. Alors, il précise qu'il y aura 14 milliards de fonds privés, c'est ça ce que j'ai entendu. Non, c'est assez particulier. Vous n'avez pas l'impression que finalement le président est prêt absolument à tout pour qu'on l'oublie pas, parce qu'il reste encore un an, et qu'il n'est plus dans la lumière, en tout cas au cœur de l'Hexagone.
Moi, je pense que c'est pas qu'il soit prêt à tout, parce que bon.
Ouais, dans la lumière.
Non, mais je pense qu'en revanche, il se sent d'autant plus libre dans sa posture. Fût-elle grotesque, et puis de pantin en fait. Et il est aussi libre sur des options anthropologiques plus fondamentales. Par exemple, on va en parler plus tard, sur cette question de l'euthanasie. Donc il brûle ses derniers feux et il n'a jamais été aussi fidèle à ce qu'il est. Bon, maintenant, ce sont des apories et puis des situations dont la France, les Français pâtissent. Enfin, ça c'est. Mais je pense que non, il n'a jamais été autant fidèle qu'à lui-même.
Franck ?
C'est certainement quelqu'un de très brillant. Personne n'ira dire le contraire. Mais j'ai de vrais doutes sur sa culture historique.
Ah oui, oui.
Parce qu'il y a vraiment des lacunes, depuis le début. Notamment quand il parlait de crimes contre l'humanité en Algérie.
Bien sûr.
Il y a vraiment, sous cet aspect-là, il y a une vraie ignorance. Enfin, il me semble qu'il y a une inculture.
Oui, il avait parlé de Startup Nation aussi. Voilà.
Mais de ce point de vue-là,
la France n'est pas une Startup Nation, c'est une vieille nation, comme dirait notre ami Dominique David.
C'est vraiment le petit-fils ou le fils spirituel, j'ai pensé à un trouble. Jacques Attali à la main que François Hollande. Et sur ces sujets-là. Et j'ajouterais que si vous étendez un peu Emmanuel Macron à ses ministres, dans le même temps, on avait la ministre des Anciens Combattants qui venait battre sa coulpe à Sétif, en Algérie.
C'est vrai.
Alice Ruffaut.
Oui, oui.
C'est-à-dire qu'en Algérie, on rappellera à nos auditeurs, mais qui savent tous ça, effectivement, les troupes françaises ont sévèrement réprimé des massacres. Il y en a eu une centaine de Français qui ont été massacrés en mai 1945, à l'issue d'émeutes qui avaient été fomentées par les militants d'un parti interdit, qui était le Parti du Peuple Algérien, qui était une émanation communiste locale. Et effectivement, les Français ont engagé une répression féroce qui a fait plusieurs milliers de morts. Mais c'est au départ, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que c'est une répression qui fait suite à une centaine d'Européens assassinés dans des conditions atroces.
Est-ce que vous rappeliez que le ministre ancien combattant est allé donc, sur place, là, récemment, on est d'accord.
Oui, la ministre.
C'était 8 mai 45. C'était 8 mai 2026.
J'ai du mal à comprendre qu'une ministre de la République puisse aller dans un pays où on a un Français qui est en otage. Notre journaliste, notre confrère Glaise, qui est bientôt depuis un an dans les geôles algériennes, je veux dire. J'ai un peu de mal à voir quelle est la cohérence, là, non Gérard ?
Oui, surtout quand on voit le peu de soutien qu'avait recueilli à l'époque Boualem Sansal quand il a passé un an dans les geôles algériennes et avec un état de santé précaire. Donc, effectivement, on a du mal à comprendre, mais la démarche, enfin, je ne pense pas que ce soit une démarche personnelle, puisque un ministre ne se déplace pas sans l'accord et la consigne du président de la République et du Premier ministre. Mais effectivement, la venue de Mme Ruffaut pour cet anniversaire de la répression des émeutes de Sétif était quand même un fait absolument incroyable. Incroyable.
C'est plus que ça, non, Franck ?
Oui, ça.
Ça vous a pas choqué, si ?
Si, tout à fait, mais on est toujours dans cette même réflexion quand on parle de l'Algérie, quoi. C'est-à-dire qu'on est là à se reprocher les uns les autres ce que les uns et les autres ont fait, Mais on est souvent plutôt dans des zones grises que dans des zones toutes blanches ou toutes noires. Et c'est bien le problème de ces relations qui n'en finissent pas de se dégrader avec l'Algérie. Vous parlez de la ministre des Anciens Combattants, mais aussi une Ségolène Royal qui représente quand même quelque chose au niveau politique en France, même si elle peut faire sourire par ailleurs, mais elle est quand même
elle représentante de la France, quelque chose, oui.
Et qui va là-bas recueillir je ne sais trop quoi, alors qu'effectivement, à l'époque, je crois que Boualem Sansal était encore emprisonné, que Glaize y était encore aussi emprisonné. Donc oui, on peut se poser des questions sur ces relations extrêmement toujours tendues, toujours compliquées avec l'Algérie, et on a l'impression qu'on n'en sortira jamais.
Enfin, ce qui est incroyable, si vous voulez, il y a effectivement une forme de veulerie de nos gouvernants à venir battre leur coulpe. Alors, ça date, je pense, vraiment... Hollande a été le premier à battre sa coulpe pour ce qui s'est passé à Sétif. Et Hollande avait déjà dans ses bagages Benjamin Stora. Donc, c'est vraiment un tropisme. Et c'est quand même le mentor en politique d'Emmanuel Macron.
Mais celui qui a été le plus loin, c'est quand même Emmanuel Macron.
Il a été sur la lancée.
Il a mis tous les genoux à terre, les beaux jets de galère.
Et c'est d'autant plus choquant que, de l'autre côté, en Algérie, le régime algérien a fait du rappel constant de l'antagonisme avec la France, de la période de la colonisation, on a fait le support du régime.
Ils
ne tiennent que par
que
ça.
Que par la haine de la France.
Que par la haine de la France. Donc que la France apporte en plus
sa pierre
à l'édifice est particulièrement choquant et regrettable.
Et la France qui cherche à courtiser en permanence une dictature corrompue. Quoi. C'est pas autre chose.
Et dans l'hymne algérien, M. Tebboune a même fait remettre un couplet anti-France dans l'hymne algérien.
Ce que je trouve sidérant dans cette affaire algérienne, c'est également le fait que nos hommes et femmes politiques pourraient au minimum faire peur d'indifférence. Voilà, c'est tout ce qu'on pourrait attendre d'eux.
Merci, voilà. Messieurs, nous allons changer de sujet.
Reste en Courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Alors, Marc Baudrier n'est pas là, mais Jean-François Coulon-Desart essaie de le remplacer avec Damien Chalamel, Gérard Gachet et Franck Herriot. Nous partons, j'allais dire, pour le Sénat. Nous devons avoir en ligne Francis Spinner, sénateur LR de Paris. Vous êtes là, Monsieur Spinner ?
Je suis là.
Ah, formidable. Bonsoir, comment allez-vous ? Ah, je vous entends un peu mal.
Trop pays en ce moment.
Attendez, là, je ne vous entendais pas très bien. Vous m'entendez ?
Moi, je vous entends parfaitement.
Ça y est, on vous entend à nouveau parfaitement. Voilà, ce sont les aléas du direct. Alors, on va parler évidemment de cet enjeu de civilisation qui doit faire l'objet d'une consultation des Français. Je vous cite. Donc, vous vous battez sur cette fameuse loi pour mourir, loi que certaines appellent différemment, employons le mot, l'euthanasie. On en est où dans cette affaire ? Le Sénat a la repoussée, mais on en est où ? Qu'est-ce qui va se passer ?
Eh bien, la situation est la suivante. Il y a d'un côté la proposition de loi référendaire que j'ai déposée. Pour qu'elle soit recevable, elle devait au préalable obtenir le soutien d'un cinquième de la représentation nationale, c'est-à-dire 185 signatures de députés et de sénateurs. Et il se trouve que 200 parlementaires m'ont accompagné, nous sommes donc 201, à avoir soutenu la proposition qui désormais va être sur le bureau du président du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a un mois pour se prononcer sur la recevabilité de cette proposition de loi par rapport à l'article 11 de la Constitution. Et si le Conseil constitutionnel estime que cette proposition de loi entre dans le champ du référendum d'initiative partagée, eh bien, le Conseil constitutionnel ouvrira le délai de 6 mois pendant lequel pourront être collectées les signatures en faveur de la tenue de ce référendum, avec un nombre de signatures important à obtenir. Cela n'arrête pas juridiquement le processus législatif, mais je vois mal le gouvernement de convoquer une commission paritaire et éventuellement une autre lecture à l'Assemblée nationale alors que cette procédure est en cours. Ce serait un déni de démocratie et ce serait contraire à l'esprit et à la lettre de nos institutions.
Gérard Gachet.
Bonjour, monsieur le sénateur. Vous avez accompli un vote moral, logique et tout à fait compréhensible, en repoussant pour la deuxième fois ce projet de loi sur le suicide assisté ou l'euthanasie, on l'appelle comme on veut. Mais en attendant que votre éventuel référendum d'initiative populaire voit le jour, pour l'instant, ça laisse le champ libre à l'Assemblée nationale qui peut adopter seule le projet de loi du gouvernement. Alors, est-ce que ce vote moral, encore une fois, n'est pas aussi, quelque part, une erreur tactique qui permettrait au Parlement d'adopter finalement le texte du gouvernement ?
Alors, je ne le crois absolument pas pour une raison très simple. C'est que l'Assemblée nationale, dans notre Constitution, a le dernier mot. Et que quand bien même le Sénat aurait adopté une proposition de loi modifiée, essayant de gommer les aspects les plus choquants de la loi proposée par l'Assemblée nationale, si nous avions instauré une clause de conscience pour les établissements ayant vocation confessionnelle, si nous avions supprimé le délit d'entrave, de toute façon l'Assemblée nationale faisait ce qu'elle voulait. Mais si nous l'avions voté, elle aurait pu se prévaloir de l'accord du Sénat sur l'essentiel, c'est-à-dire admettre en France le principe de l'euthanasie. Et donc je pense qu'il n'y a pas lieu à considération tactique. J'ajoute de surcroît que nous n'avons pu obtenir cela que grâce aux socialistes, parce que le groupe socialiste a estimé que ce que la commission des lois du Sénat, des affaires sociales, du Sénat avait fait, était insuffisant. Et c'est eux qui ont voté contre l'article 2. Nous ne sommes que 48 sénateurs LR à avoir voté contre l'article 2. Et sans l'appui des socialistes, l'article 2 passait. Et donc c'est le Parti socialiste qui a eu la responsabilité d'empêcher le débat au Sénat. Car s'ils avaient fait comme les communistes ou les écologistes, le débat se serait poursuivi. Mais je reste convaincu qu'il n'y a pas dans cette affaire, j'allais dire, de demi-mesures possibles. Nous avons pris nos responsabilités, nous avons réaffirmé notre hostilité au principe de l'euthanasie. Et donc l'Assemblée nationale, de toute façon, en l'état de nos institutions, elle fait ce qu'elle veut. Et même le texte, s'il y a eu un texte du Sénat, elle pouvait le balayer.
Francis Pinner, une question. Pourquoi vous considérez ce sujet comme très déterminant dans l'avenir de la société française ? Pourquoi ça vous tient tant à cœur ?
Mais quand nous disons, je ne suis pas le seul, heureusement, à dire que c'est une rupture anthropologique, nous vivons dans une société qui, aujourd'hui, considère que la mort relève de l'intime, que l'État ne s'en mêle pas, et d'ailleurs, nous sommes un pays qui considère que, constitutionnellement d'ailleurs, paix de la vie est une exigence constitutionnelle. C'est pour ça que la France a aboli la peine de mort. Or, aujourd'hui, sous couvert de compassion, on vous explique qu'il y a des gens qui souffrent et que cette souffrance est intolérable et que c'est indigne de les laisser souffrir. C'est pour ça d'ailleurs que je tiens à souligner l'événement important qui s'est produit cette semaine, c'est que le Sénat a voté la loi sur les soins palliatifs. Et nous l'avons voté dans des termes conformes. Alors, un peu de technique parlementaire. Si nous avions voté les soins palliatifs en y apportant des amendements, et il y avait matière à amendements, il aurait fallu repartir avec une commission mixte paritaire ou une deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Pour que les soins palliatifs entrent en vigueur le plus vite possible, nous avons fait l'effort de ne pas voter d'amendement et de soutenir le texte de l'Assemblée nationale pour avoir un vote conforme. Donc nous avons voté les soins palliatifs, et c'est le plus important. Mais ce qui se passe, c'est que dans tous les pays qui ont adopté l'euthanasie ou le suicide assisté, on a commencé par une lecture très restrictive de l'accès au suicide assisté et à l'euthanasie pour ouvrir ensuite les vannes et arriver à des situations qui sont insupportables. L'euthanasie possible pour des mineurs, l'euthanasie possible pour des gens bien portants mais qui ont un certain âge. Et là, on voit bien que ça oblige les gens à se dire « Que vaut ma vie ?»
Que vaut ma vie ? Absolument.
Et je dirais que quand on regarde au Canada, 8% des morts viennent du suicide assisté. Ce sont souvent les plus pauvres qui sont majoritaires, c'est-à-dire les plus faibles. Et moi, je pense que la politique, le devoir de fraternité, de pays, si vous regardez les devises des pays dans le monde, il y a la liberté, il y a la dignité, il y a le travail, il y a la solidarité. Je crois que la France est le seul pays qui, dans la devise de sa République, a instauré le mot fraternité. Et la fraternité, c'est l'attention aux plus faibles, l'attention aux plus fragiles. Et c'est la première exigence qui est la nôtre. Ce n'est pas l'abandon et ce n'est pas la mort. Voilà pourquoi je pense que ça change considérablement notre société. D'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas. Quand vous voyez les patrons des mutuelles faire d'une manière indécente campagne pour le pays, c'est bien qu'il y a là un intérêt et un enjeu économique.
Oui, c'est très choquant, et ça, d'ailleurs.
Voilà. Et donc, ça montre bien la nature de cette loi. Ce n'est pas une loi de fraternité. Ce n'est pas une loi de compassion. C'est une loi qui vise, en réalité, à finalement imposer aux gens le fait de se dire quelle est la valeur de ma vie.
Damien Chalamel.
Et de penser qu'il y ait des vies qui valent plus que d'autres. Voilà.
Damien Chalamel.
Voilà, moi je suis résolument hostile à toi.
Oui, monsieur le sénateur, bonsoir. D'abord, moi, avant de vous poser une question, je voudrais vraiment vous remercier pour votre démarche, votre pugnacité et le courage dont vous faites preuve. Alors maintenant, j'ai une question, enfin, qui n'est pas une critique, mais que répondez-vous à ceux qui vous disent que cette proposition de loi ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 11 de la Constitution, dont je rappelle à nos auditeurs qu'il concerne les lois qui portent sur l'organisation des pouvoirs publics ou les réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, voilà, pour l'essentiel. Et donc, c'est une question d'ordre juridique et politique que je vous pose.
Damien est avocat aussi.
Non, mais je vais vous répondre que, vous savez, la Coupe du monde de football arrive. Et quand la Coupe de football arrive, brusquement, la France compte 60 millions de sélectionneurs. Eh bien, aujourd'hui, la France compte des millions de constitutionnalistes. Donc, moi, je regarde l'article 11. Est-ce que le suicide porte, oui ou non, sur la politique sociale ? Si vous m'expliquez que ça n'est pas un enjeu social que les critères de la fin de vie, je ne sais plus ce qui est un enjeu social. Et les services publics qui y concourent, si vous m'expliquez que cette loi n'a aucune incidence sur les services publics de la santé, je ne sais pas de quoi on parle. Donc moi, je considère, et un certain nombre de constitutionnalistes pensent comme moi, qu'effectivement, nous sommes dans le domaine d'une réforme sociale, de politique sociale, qui a une incidence sur un service public de l'État, c'est-à-dire la santé, et que nous sommes parfaitement dans le champ de l'article 11. Si le Conseil constitutionnel en décidait autrement, au-delà du cas particulier, cela voudrait dire qu'en réalité, il y a la volonté de tuer le référendum d'initiative partagée, dont les conditions sont déjà éminemment complexes. Et si on estime qu'à ce moment-là, et finalement, dans une démocratie, il faut se méfier du peuple et tout faire pour ne pas lui donner la parole, eh bien qu'on le dise. Mais je ne vois pas, quand je vois des gens m'expliquer juridiquement que ça n'entre pas dans le domaine de la réforme de la politique sociale du gouvernement et du service public qui en concourt, alors expliquez-moi ce qui rentrera si on ne l'applique pas à ce cas-là.
Je vous avoue que je suis plutôt convaincu par votre interprétation, mais j'étais heureux de vous l'entendre dire. Cela étant dit, maintenant sur ce référendum d'initiative populaire, tout le monde sait qu'il a été conçu pour ne pas être pratiqué. Et quand la dernière fois, pour ce qui est d'un référendum majeur, donc c'est en 2008, le traité sur la Constitution européenne, c'est bien l'Assemblée qui l'a balayé, qui a balayé le vote des Français et qui s'en souviennent encore. Donc la question du référendum, elle a été aussi très maltraitée à la fois par nos hommes politiques, plus récemment.
Non, ce sont deux choses très différentes.
Francis Spinner.
Oui, ce sont deux choses très différentes. Il y a eu un premier référendum, vous faites allusion au référendum sur le traité de Lisbonne. Mmh. C'est un référendum qui n'était pas d'initiative partagée, c'était un référendum à la demande du gouvernement. Bien. Les Français ont voté non. Et ce qui est dramatique pour la démocratie, c'est que finalement, on a contourné le vote des Français. Et je crois qu'une partie de la crise démocratique date de ce référendum. C'est-à-dire quand on a dit aux Français, comme vous avez mal voté, on ne va pas tenir compte de votre vote. Et je pense que ça a été une déchirure dans la démocratie. Le référendum d'initiative partagée, ça consistait à dire, finalement, l'appel au peuple ne peut pas venir que des politiques, et que dans des conditions encadrées, un cinquième du Parlement, un certain nombre de signatures, il y a la possibilité pour le peuple de s'exprimer. C'est une démarche différente dans sa genèse. Bien. Eh bien, il ne faut pas la tuer, même si elle est très compliquée à mettre en œuvre, je le reconnais.
Francis Pinheur, est-ce que vous ne pensez pas qu'un sujet finalement aussi délicat, aussi complexe que celui de la fin de vie, est, comment dire, peu propice à un référendum, parce qu'on sait que les Français, quand ils répondent à un référendum, ils répondent à la question posée, mais ils en profitent pour envoyer un message politique.
Alors écoutez, je pense que c'est un sujet où les gens ne répondront pas oui ou non à celui qui pose la question. Parce que c'est un sujet qui est éminemment politique au sens noble du terme, c'est-à-dire la vie de la cité, mais qui n'est pas un sujet partisan. Parce que des partisans de l'euthanasie, comme des adversaires de l'euthanasie, vous les trouvez dans tous les partis. Au Sénat, par exemple, la présidente du groupe communiste a dit son opposition avec des mots très forts. Elle a dit « la mort ne peut pas être un projet politique ». Et dans tous les partis, avec plus ou moins d'importance, il y a des gens qui seraient partisans du oui et des gens qui seraient partisans du non. Et donc je pense que le fait que ce débat ne devienne pas un débat partisan, mais un débat de conscience, fait que les gens ne répondront pas oui ou non à celui qui pose la question. Quant à la complexité, mais je pense que c'est un sujet qui mêle évidemment beaucoup de choses, mais c'est un sujet que chaque Français peut appréhender. Parce que chacun, dans sa famille, dans l'histoire de sa famille, dans l'histoire de la vie de sa famille ou de ses amis, peut être question. Et donc cette question n'est plus une abstraction. Cette question, c'est une réalité qu'ils peuvent connaître, qu'ils peuvent appréhender, et donc la complexité qui peut amener aux réponses. Le cheminement qui fait que chacun d'entre nous peut se forger une conviction qui l'amènerait à voter oui ou à voter non.
Mais oui, justement, comment vous vous êtes forgé votre propre conviction ?
Moi, ma conviction, elle vient du fait que je pense que dans une démocratie, ce qui est notre force, ce qui est notre supériorité morale, c'est de ne pas ressembler à ceux qui sont des barbares. Et donc, c'est par rapport à la vie qu'on se détermine. Quand on est abolitionniste, la différence entre un terroriste qui veut donner la mort et nous qui épargnons la vie des terroristes, même si nous les combattons, c'est notre supériorité morale. Une société qui s'arroge le droit d'aider à la mort de ses concitoyens est une société qui, à mon avis, perd son autorité et perd le sens de sa fraternité. Parce que, un avocat...
Ah, on vous entend moins bien.
J'ai toujours été abolitionniste. Je dis
ça. Oui, Francis Pinheur, vous nous entendez? Allô?
Oui, moi je vous entends.
Ah oui, là, on vous entend à nouveau très bien. Oui, vous avez été avocat, vous nous disiez.
Je suis toujours avocat, mais quand j'ai commencé à prêter serment, la peine de mort existait. Et j'ai toujours été abolitionniste, et je pense que la grandeur des démocraties, c'est de ne pas se comporter comme ceux qui la combattent. C'est notre supériorité morale, c'est ce qui fonde notre légitimité à combattre le terrorisme, la barbarie, c'est ce qui fonde notre légitimité à asseoir l'idée que nous vivons dans une société de fraternité et de solidarité.
Franck Herriot veut vous poser une question, monsieur le sénateur.
Oui, bonsoir, monsieur le sénateur. Alors, cette humanité dont vous parlez, cette décision, cette attitude que la société prendrait pour s'en honorer, est-ce que ça passe pas aussi par le développement des soins palliatifs? Parce que c'est alors évidemment, on peut comprendre que ça ne plaise pas à des organismes comme les mutuelles, puisque ça coûte très cher, mais est-ce que c'est pas la solution?
Mais c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit que l'événement important qui s'était passé au Sénat, c'est le fait que nous ayons adopté dans les mêmes termes la loi sur les soins palliatifs, sans proposer le moindre amendement, de manière à ce que cette loi rentre en vigueur le plus vite possible et qu'on en donne les moyens. Et d'ailleurs, lorsqu'il y aura le prochain budget de la Sécurité sociale, la majorité sénatoriale sera attentive à ce que les moyens soient donnés aux soins palliatifs.
Mais dites-moi... Oui, je vous écoute.
Allez-y.
Oui, non, cette loi sur l'euthanasie, la balle est dans le camp du gouvernement. Il va falloir trouver un petit peu de place. Il faut faire un peu de place à l'Assemblée pour tout ça. Ça risque d'être quand même très compliqué. Or, le président la veut absolument.
Écoutez, je ne vais pas prêter au président de la République des attentions. Je fais un constat. Nous avons eu cette loi qui est venue au Sénat. On aurait pu imaginer, même si c'est une proposition de loi donc d'origine parlementaire, que le Premier ministre s'exprime. Le Premier ministre, apparemment, n'a pas d'avis sur cette loi. On aurait pu imaginer que le ministre de la Santé vienne défendre cette loi. On n'a pas entendu le ministre de la Santé au Sénat. On aurait pu imaginer même que le garde des Sceaux, puisqu'après tout, l'euthanasie, c'est l'autorisation de tuer en violation du serment d'Hippocrate, ça pouvait intéresser le garde des Sceaux. On n'a pas entendu le garde des Sceaux. Et on voit qu'en réalité, le gouvernement est incapable de dégager une position commune unique. Ce qui montre d'ailleurs pourquoi il faut avoir recours au référendum, parce qu'encore une fois, ce n'est pas une affaire partisane. Alors après, c'est une responsabilité politique, mais je le dis, je vois mal, tant que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur la recevabilité de cette loi, le gouvernement essaye de passer en force.
Gérard Gachet. Allô, oui, la liaison, parfois vous, on a l'impression que de moins bien vous entendre. Ce n'est pas une impression, on vous entend moins bien, puis ça revient. Là, vous m'entendez bien à nouveau ?
Je vous entends parfaitement.
Très bien. Gérard Gachet va vous poser une question.
Vous êtes soutenu dans votre volonté de demander un référendum d'initiative populaire, un référendum partagé. Vous êtes soutenu désormais par Bruno Retailleau, le président des Républicains. Est-ce qu'il y a d'autres personnalités politiques de divers partis, de droite ou de gauche, qui vous ont déjà fait savoir qu'ils vous soutiendraient dans cette action ?
Écoutez, Bruno Retailleau a signé ma proposition de loi référendaire. Le président du groupe LR au Sénat, Mathieu Darnaud, l'a signé également. Non, j'aurais préféré qu'un certain nombre de gens que je connais y apposent leur signature. Ils ne l'ont pas fait, mais pour tout vous dire, c'est de la politique politicienne qui n'est pas à la hauteur du débat. Donc je ne vais pas dire, il manque le nom de monsieur. L'important pour moi, c'était d'avoir un cinquième de la représentation nationale. J'ai écrit à tous les parlementaires, quelle que soit leur couleur politique, et c'est à eux de prendre leurs responsabilités. 200 l'ont fait, je ne peux que m'en réjouir. Voilà. Maintenant, sur le fond, j'observe curieusement que Mme Braun-Pivet reconnaît elle-même qu'il y avait matière à référendum. De même que d'ailleurs Mme Souiris, qui est sénatrice écologiste. Mais ils disent, mais finalement, c'est plus le moment. Le temps du référendum est passé. C'est quand même assez curieux comme raisonnement.
Pourquoi, à votre avis, monsieur le sénateur, le gouvernement voudrait-il éventuellement passer en force, s'il fait adopter le texte de la proposition de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, pourquoi est-ce qu'il souhaiterait passer en force alors que le président de la République avait dit, lui, qu'il n'en ferait rien ?
Écoutez, je ne suis pas sûr que le gouvernement veuille passer en force. Et pour l'instant, la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Braun-Pivet, qui pousse à cela, mais je n'ai pas entendu M. Lecornu dire qu'il le ferait, et je pense que M. Lecornu aura l'intelligence d'attendre et de voir comment tourne la procédure référendaire avant de prendre une décision hâtive. Donc, moi, vous savez, je crois qu'il faut garder son sang-froid, il faut garder son calme. Il y a des procédures en cours, et puis chacun analysera et en tirera les conséquences politiques.
Damien Chalamel.
Oui, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez nous préciser ou nous confirmer que les députés du Rassemblement national, au moins la majeure partie d'entre eux, vous ont accompagné dans cette proposition de loi ? référendaire.
D'abord, sur les 201 parlementaires qui ont signé, l'écrasante majorité vient du Sénat. Nous sommes 121 sénateurs à avoir signé la proposition de loi référendaire. Ensuite, donc, il y a 80 députés qui ont signé. Parmi ces 80 députés, il y a un grand nombre de UDR-RN. Ce n'est pas la majorité de leur groupe, d'ailleurs, mais ils sont effectivement nombreux.
D'accord. Et Marine Le Pen, notamment, ou pas ? Parce que elle est...
Madame Le Pen n'a pas signé, et je l'en remercie, parce que qu'aurait-on dit si j'avais la signature de Madame Le Pen ?
Oui. Elle vous a fait un cadeau, finalement. Voilà.
Je vous confirme que je n'ai ni la signature de Madame Le Pen, ni la signature de Monsieur Ciotti, ni la signature de Monsieur Wauquiez.
Mais Francis Spinner, le référendum, je voudrais qu'on revienne un instant sur ce référendum. Il me semble que le président de la République, dans ses derniers vœux, avait parlé d'utiliser le référendum lorsque c'était nécessaire. Pourquoi il ne le ferait pas, là ? Pourquoi il ne vous donnerait pas un coup de main ou un coup de pouce ?
Écoutez, il ne vous a pas échappé que vous vous adressez à moi et pas au président de la République, et que c'est lui qui a la réponse.
Oui, mais donc, vous pouvez avoir un avis là-dessus, ou espérer un coup de pouce du président.
Moi, j'ai dit que le président de la République avait dit qu'il souhaitait organiser un référendum, des référendums d'ailleurs. Il voulait consulter les Français, qu'au bout de deux quinquennats, nous sommes à la fin du deuxième quinquennat, il ne les a jamais consultés, qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Ben voilà. Voilà qui nous donne de l'espoir. En tout cas, cette loi à l'Assemblée, vous croyez qu'elle peut être adoptée d'ici la fin de l'année ? Ça va être compliqué. Hein.
Écoutez,
s'il passe par ça.
Hein. Vous savez, j'ai souvent un principe que je répète, je dis par les temps qui courent, la météo, la politique, c'est comme la météo. Et au-delà de 8 jours, toute prévision devient hasardeuse.
C'est très bien. Ça sera le mot de la fin. Toute prévision devient hasardeuse. Merci beaucoup, monsieur le sénateur de Paris. Je m'en étouffe. Merci, Francis Spinner. Et à très vite sur l'antenne de Radio Courtoisie. Merci
c'est
à vous.
C'est moi qui vous remercie.
Merci
bonne
à
soirée.
Vous. Bonne soirée.
Restons courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Alors, autour de la table, nous avons les mousquetaires que vous retrouvez tous les vendredis soirs. Gérard Gachet, journaliste et ancien patron de rédaction. Il en a dirigé beaucoup. Franck Herriot, journaliste et écrivain. Et bien sûr, maître Damien Chalamel, l'un des meilleurs de sa profession. On va tout à fait changer de sujet. On reste en France, mais on va partir très loin. On va partir à 24 heures de vol. On va partir en Nouvelle-Calédonie parce que je vois que monsieur le sénateur de Nouvelle-Calédonie, derrière les vitres, vient d'arriver. Il va rentrer dans ce studio. Vous savez qu'en Nouvelle-Calédonie, le 28 juin, il va y avoir des élections. Il va falloir élire des représentants dans les 3 assemblées de province. C'est un scrutin, ma foi, décisif parce qu'une partie des membres qui siègent à ce congrès, c'est une sorte de parlement local et qui vote les lois, qui désigne les membres du gouvernement. Initialement, ça avait été prévu, ces élections 2024, mais reportées à cause d'émeutes. Et puis, ça va nous donner surtout un baromètre sur l'équilibre politique de la Nouvelle-Calédonie. Alors, les enjeux, il y a beaucoup à dire sur ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, justement depuis ces émeutes de 24. Pour en parler, le sénateur de Nouvelle-Calédonie, Georges Naturel, vient de s'asseoir dans ce studio. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Ouais, oui.
Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Hein.
Bah écoutez, ouais, ça peut être long. Hein. C'est vrai,
il n'y a pas de problème.
On va faire toute l'histoire. Ça non, pas
on va peut-être pas remonter à Napoléon III quand
non,
même. Hein.
Non, non.
Mais
pas.
Alors, sur ces élections, il y a un problème de 10 569 natifs. Il y a un problème de corps électoral. Expliquez-nous ça un peu.
Alors, la Nouvelle-Calédonie, ça a commencé aux accords de Matignon en 88 et à l'accord de Nouméa ensuite, on a une spécificité dans la République française, c'est qu'on a 3 corps électoraux. Le corps général, classique, que vous connaissez bien, qui permet de voter au municipal, au présidentiel, aux législatives et aux européennes, parce qu'on participe aussi aux élections européennes. Ensuite, on a ce qu'on appelle, ça nous concerne, c'est le corps électoral spécial pour les élections provinciales. La Nouvelle-Calédonie est répartie en 3 provinces. Et enfin, on a créé un corps référendaire pour voter aux trois référendums qui ont eu lieu. C'est juste un corps électoral spécifique pour les trois référendaires. Voilà, les trois. Celui sur lequel on parle aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la liste électorale spéciale pour les provinciales.
Alors, pour l'instant, c'est bloqué, là, hein, parce que Bougival a volé en éclats. Notre premier ministre a pris une grosse claque à l'Assemblée avec ça. Et vous pouvez peut-être l'aider en débloquant ça. Comment ?
Alors écoutez, le sujet du corps électoral a toujours été un enjeu particulier pour les indépendantistes. Alors il faut savoir que ce corps électoral, il est gelé depuis 2007. C'est sous Jacques Chirac qu'il a été gelé, c'est-à-dire qu'il est figé. Il y a simplement les jeunes électeurs qui peuvent, natifs en Nouvelle-Calédonie, qui peuvent y inscrire. Et donc il y a toujours eu un débat pour savoir comment élargir ce corps électoral. Donc c'est l'enjeu principal qui a effectivement été négocié à partir à l'issue du troisième référendum, donc en 2021. Et il n'y a pas eu d'entente, et vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, au moment où, sous le gouvernement Borne, c'est Gérald Darmanin qui s'occupait du dossier, a souhaité ce qu'on appelle dégeler le corps électoral, c'est-à-dire le rendre ouvert aux Calédoniens qui étaient résidents depuis 15 ans, aux gens qui étaient résidents depuis 15 ans, les ouvrir. Et c'est là où le vote a eu lieu au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et le 13 mai, le soir du vote à l'Assemblée nationale, il y a eu ces fameuses émeutes en Nouvelle-Calédonie, où je vous rappelle, économiquement, on a perdu pratiquement entre 15 et 20% de notre PIB. C'est pas rien.
C'est dramatique, ça.
C'est énorme socialement. Donc on est dans une situation catastrophique en Nouvelle-Calédonie déjà. Mais en tout cas,
on va y revenir après.
Le sujet, et le président de la République qui est venu au mois de mai faire un aller-retour de moins de 24 heures n'a pas amener cette réforme constitutionnelle jusqu'au congrès de Versailles. Donc on est resté dans cette période compliquée. A suivi les élections européennes, la dissolution. Enfin bref, on a été abandonné pendant pratiquement 6 mois avec cette affaire. Et voilà, on en arrive aujourd'hui, après des discussions par les différents ministres de l'Outre-mer. Mais on en est à 8 ministres de l'Outre-mer hein, depuis l'élection de notre président de la République. Donc oui. C'est compliqué. Hein,
très compliqué. Valls a été un bon ministre d'Outre-mer.
Valls a été un ministre d'État, premier ministre. Il connaît bien la Nouvelle-Calédonie. Donc il a essayé effectivement de faire évoluer le dossier pour en arriver à Bougival, qui a été effectivement bloqué. Donc depuis août l'année dernière, en fait, le système est complètement bloqué. Le président de la République a essayé effectivement d'intervenir en janvier. À l'époque, je lui avais dit, à mon avis, comme il y a en plus une grosse instabilité à l'Assemblée nationale, je vois mal comment on peut aller jusqu'à une réforme constitutionnelle pour réformer le corps électoral. Et moi, l'année dernière, j'avais proposé effectivement un véhicule, une loi organique qui permettait effectivement d'aménager le corps électoral sans passer par la réforme constitutionnelle. Et c'est ce véhicule législatif que le Premier ministre veut utiliser lundi donc, au Sénat.
Alors, qu'est-ce qu'il y a, non pas techniquement, mais pourquoi 10 569 natifs en plus qui pourront voter ? Pourquoi pas 10 570, 71, j'en sais rien.
Bon alors, c'est vrai que c'est compliqué pour, des gens de l'Hexagone de comprendre tout ça. Ouais. Il faut savoir que ces 10 569 électeurs ont participé aux trois votes de référendaire. C'est-à-dire qu'ils sont inscrits sur la liste référendaire, mais ils ne sont pas inscrits sur la liste spéciale. Donc, il y a eu un accord en 2017, en fait, pour les inscrire automatiquement pour l'organisation du référendum. Donc, ma proposition, c'est en fait de pouvoir les inscrire dans la liste spéciale provinciale. Alors, ça permet trois choses importantes. Donc, ça permet de voter, bien sûr, aux élections provinciales. Ça permet de définir ce qu'on appelle la citoyenneté calédonienne. Et ce n'est pas négligeable, parce que dès qu'on a la citoyenneté calédonienne, on peut, dans le cadre d'un dispositif d'emploi local, faire valoir cette possibilité. S'il y a effectivement concurrence à compétences égales, on a priorité pour les emplois. Donc c'est quelque chose d'important.
Il y a une priorité calédonienne sur l'île.
Il y a un emploi local qui est lié justement à cette liste électorale.
Et la citoyenneté calédonienne, qu'on comprenne bien, monsieur le sénateur, et la suite. La citoyenneté française, c'est quoi la différence ?
Ah non, mais enfin, elle permet deux choses à la citoyenneté calédonienne aujourd'hui, de pouvoir voter donc aux élections provinciales, c'est la première chose. Et la deuxième, de pouvoir être prioritaire, mais à compétences égales.
La préférence nationale, quoi, en gros.
Comment ?
La préférence nationale calédonienne.
Exactement, c'est ça. D'accord. Alors, je ne viens pas sur Bougival, parce que là, on pourrait passer quelques heures. Oui. Mais bon, je termine quand même.
Allez-y, allez-y.
Un élément important, c'est que ces 10 569 électeurs, il y en a 80% qui étaient là avant l'accord de Nouméa, en 98. Déjà en Calédonie. Ils sont nés en Calédonie avant 1998. Donc, ça justifie vraiment de les inscrire.
Mais vous enlevez, avec cette proposition de loi, vous enlevez une belle épine du pied, finalement, au Premier ministre.
Bah écoutez, ma proposition de loi, personne... enfin bon, parce qu'il y avait ces négociations, Bougival, enfin un certain nombre, donc ils voulaient... Comme il y avait l'idée de trouver un accord global, et en fait, l'État français, il attend avec impatience cet accord, donc il ne voulait surtout pas étudier ma proposition. C'est, le problème, c'est d'avoir raison un peu trop tôt dans la vie, des fois.
Surtout en politique.
Surtout en politique. Donc, demain, ça fera un an que mon projet a été déposé. Personne n'en a tenu compte. C'est resté comme ça, lettre morte. Et puis, effectivement, aujourd'hui, comme la date des élections est fixée donc, au 28 juin, l'idée, c'est effectivement de travailler sur le corps électoral. Et c'était pour le faire, entre guillemets, dans l'urgence, hein, parce que c'est dans moins de 50 jours qu'on devra voter. Le Premier ministre m'a contacté pour pouvoir prendre comme véhicule législatif ce que j'ai déposé il y a un an.
Votre proposition de loi. On en reparle tout de suite après juste un petit message.